Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest.
C'était il y a 30 ans, le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg tirait sa révérence à 62 ans. Nous allons retracer la vie de l'artiste avec Stéphane Deschamps, auteur du livre Gainsbourg, année héroïque, publié chez Chronique Éditions. Stéphane Deschamps, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, Lucien Gainsbourg naît le 2 avril 1928 à Paris, de parents artistes ayant fui la dictature bolchévique et arrivé en France en 1921, puisque son père Joseph est pianiste et étudié au conservatoire de Moscou et Petrograd, et sa mère Brucha Goda, dite Olga Bessman, est chanteuse mezzo-soprano. Quelle est la vie de la famille de Serge dans sa plus tendre enfance ?
Serge a le petit Lulu, hein, a deux sœurs, oui. Jacqueline et Liliane. Voilà, bah, son enfance est plutôt douce, hein, bercée par les mélodies de Gershwin, de Chopin, de Cole Porter. Ses parents sont passionnés d'art. Et puis, son papa lui donne ses premières leçons de piano. Bon, là, c'est plutôt autoritaire, hein, ça se termine souvent en larmes pour le petit Lulu. Sinon, il va à l'école laïque et républicaine. Il est très timide, c'est un enfant solitaire. Et puis, avec ses frangines, il fait plutôt le pitre. Hein. Là, c'est plutôt le garçon drôle. Il a vraiment hérité de l'humour féroce de sa maman. Donc, il s'évade hein, le soir en lisant les contes de Grimm, Journal de Mickey, Guy l'Éclair. Et il commence vraiment à dessiner à cette époque-là, quand il était gamin.
Alors justement, lors de l'occupation, la famille qui est juive fuit pour la Sarthe dans un premier temps, puis pour la Haute-Vienne. Lucien est caché dans un collège jésuite à Saint-Léonard-de-Noblat. Un soir, la Gestapo fait une perquisition et le jeune Lucien est envoyé dans la forêt où il passe la nuit tremblant de froid et de peur. Un épisode qui le traumatisera.
Quand Gainsbourg était planqué à Saint-Léonard-de-Noblat avec sa famille, il s'était rebaptisé Gainsbourg, donc il s'appelait Lucien Gainsbourg. Et on se demande pourquoi un jour il s'est rebaptisé Gainsbourg. Il faut peut-être aller chercher dans cette direction.
Ah oui, ça c'est possible. Jusqu'à 30 ans, Stéphane Deschamps, son activité artistique principale est la peinture, comme son père qui peignait avant de faire du piano.
Absolument, ouais. Son papa était artiste peintre quand il était étudiant. Et d'ailleurs, on lui déroba une de ses toiles dans le Transsibérien. Et cette toile représentait la femme qu'il aimait à cette époque. Et c'est donc son père qui a pris la main de son fils, du petit Lulu, et l'a inscrit à l'académie de Montmartre. Il voulait vraiment que son fils s'intéresse à cet art qu'il définissait comme majeur. Et Gainsbourg, Serge Gainsbourg, le peintre, lui voulait atteindre la perfection. Donc il a suivi des cours, les cours de Fernand Lotte, de Fernand Léger. Et Gainsbourg avait un style post-impressionniste. Ses toiles étaient assez douces et délicates. Il a fini par abandonner la peinture parce qu'il n'arrivait pas, ça ne nourrissait pas son homme. Et il en a brûlé la plupart.
Alors justement, en 1954, il devient chanteur dans les piano-bars et dépose ses premières œuvres à la SACEM sous son nom et sous le pseudo de Julien Grix. Comment devient-il de Lucien Gainsbourg à Serge Gainsbourg ?
Alors c'est vrai que ses débuts, il est passé dans les cabarets. Il a notamment côtoyé un cabaret, le cabaret de Madame Arthur, entouré de travestis. Il a écrit ses premières chansons comme Vita la Panthère pour son premier interprète Lucky Sarcel. Et ensuite, il a intégré le piano bar Le Minor Larsouille, où il jouait du piano aux côtés de Michel Arnaud. Et il a fini en 57 par se faire appeler Serge, parce qu'il y avait une résonance russe à travers ce prénom Serge.
D'accord. En 1955, justement, il a un coup de foudre artistique pour Boris Vian.
Et il le voit d'ailleurs sur scène au Minor Larsouille. Comme vous le dites, c'est un véritable coup de foudre. Et Gainsbourg disait, c'est en l'entendant que je me suis dit, je peux faire quelque chose dans cet art mineur.
Ah oui, d'accord, oui, effectivement, l'art majeur c'est la peinture, l'art mineur c'est la chanson. En 1958, premier grand succès avec le poinçonneur de Lila, dont on a entendu un extrait, c'est le titre qui a lancé sa carrière.
Oui et non. Alors, ce titre a une histoire amusante parce qu'au Milor Larsouille, un des clients était Hugo Frey. Et Hugo Frey venait tous les soirs écouter Serge chanter le poinçonneur de Lila. Et Hugues a appris cette chanson par cœur et il l'a intégrée à son répertoire, à son tour de chant. Mais le directeur artistique de Serge Gainsbourg, qui s'appelait Denis Bourgeois, avait tout de suite ressenti le potentiel tubesque de cette chanson. Et donc, il fallait qu'elle soit interprétée par des gens déjà installés, enfin des artistes déjà en place. Et donc, il a confié cette chanson, ils ont confié cette chanson aux frères Jacques à l'époque. Et les frères Jacques ont vraiment cartonné avec le poissonneur des Lilas. Et d'ailleurs, ils annonçaient sur scène, ils présentaient cette chanson comme le premier concerto gainsbourgeois.
Dès 1959, il tourne son premier film. On a parfois oublié le Gainsbourg acteur « Voulez-vous danser avec moi ?» de Michel Boiron. Il en tournera plus de 30.
Ouais, c'est d'ailleurs important de souligner ce premier film en 59 parce que c'est sur ce tournage qu'il rencontre Brigitte Bardot. Voilà, petite parenthèse. Donc, il tournera plusieurs films. Alors, on le prenait souvent pour sa gueule, hein, Gainsbourg, et il a joué dans des péplums. Il avait la gueule de l'emploi, comme on dit. Il avait souvent le rôle du traître. Hein, donc, il a tourné dans La révolte des esclaves, Hercule se déchaîne.
Alors, justement, il a fait aussi beaucoup de musique de films. La plus célèbre étant le Requiem pour un con, BO du film Le Pacha de Georges Lautner avec Jean Gabin. On écoute un extrait.
Moi, c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rechoue quand même.
Extraordinaire, Gainsbourg, Lautner, Audiard et Gabin réunis dans le même film, Stéphane Deschamps.
Ah oui, c'était quelque chose. On se souvient tous des images en noir et blanc avec Gainsbourg qui est derrière la vitre. Il y a même Gabin qui passe à un moment donné. On le voit à l'image. Mais à propos des musiques de films, on parlait du premier tube, enfin premier succès de Gainsbourg tout à l'heure. Son premier tube, c'est L'eau à la bouche en 60. Donc une musique de film également qui s'est vendue à 100 000 exemplaires.
Alors justement. C'était Georges Lautner, mais après 69, il sort un tube planétaire avec Brigitte Bardot, puis Jane Birkin, Je t'aime moi non plus. On écoute un extrait. Planétaire, alors interdit à la BBC avant 22h par exemple.
Oui, et également interdit sur la RAI, hein, en Espagne, au Portugal, au Brésil. C'est un titre qui a fait un véritable scandale. Chanson qui a donc deux histoires, hein, celle de Brigitte Bardot et puis celle de Jane Birkin. Serge a ressorti de ses cartons cette chanson qui avait été interdite par Brigitte suite au scandale, hein, parce que Brigitte était très mariée à l'époque avec le milliardaire Gunter Sachs, donc cette chanson n'est jamais sortie sur les ondes. Et Serge l'a offerte à Jane qui l'interprète absolument divinement.
En 1984, un album cartonne avec notamment Love on the Beat où on entend les cris de sa compagne Bambou quand ils font l'amour et Lemon Incest avec Charlotte, sa fille. On n'imaginerait plus ce type de chanson aujourd'hui.
Ça, c'est clair, Philippe. On était dans un autre monde à l'époque. Il faut bien rappeler le contexte. On parle surtout des années 80, là. Hein.
Oui.
À cette époque, Serge est copain avec Coluche, avec le professeur Choron, avec l'équipe d'Arakiri, avec Desproges. Voilà, on le voit chez Pollack, Droit de réponse, ça part dans tous les sens. C'est une décennie insouciante. Hein. Il y a un vent de liberté extrême. On se permet tout. On voit les cocolures de Stéphane Collaro à poil avant le journal de 20h le samedi soir. Voilà, Gainsbourg baigne là-dedans. Donc, effectivement, aujourd'hui,
ça change, oui.
C'est plus possible, quoi. On ne peut plus rien dire. Tout est compliqué. Mais c'est une bonne question. Comment se comporterait Gainsbourg aujourd'hui? Imaginez, lui qui fait fumer 20 clubs par jour, 20 gitanes par jour dans un studio de radio ou de télévision.
Oui, ça, strictement impossible. Alors, justement, il décède le 2 mars 91. Que reste-t-il de Serge Gainsbourg 30 ans après sa mort?
C'est une œuvre bien évidemment immense, un terreau fertile pour les nouvelles générations de musiciens. C'est un visionnaire, Serge, il avait 20 ans d'avance sur tout le monde. Il a touché à toutes les disciplines en termes de musique, hein, le classique, le jazz, la pop, variété, rock, reggae, funk, imaginez. Voilà, aujourd'hui, Serge est repris quasiment dans le monde entier. C'est une star au Japon, on trouve ses disques en Angleterre, aux États-Unis. Il y a des groupes américains comme De La Soul qui samplent Gainsbourg. Voilà, je ne parle même pas de Beck, de Franz Ferdinand, de Madonna qui l'adule.
Merci beaucoup Stéphane Deschamps, auteur du livre Gainsbourg, année héroïque, publié chez Chronique Édition. Serge Gainsbourg qui nous a quittés il y a 30 ans, le 2 mars 1991.